RMC Running, le cabinet de Seb Cornette.
Salut à tous, bienvenue dans le cabinet de Seb Cornette. C'est la consultation spéciale trail qui arrive évidemment dans RMC Running. Soit c'est la route avec Johan Durand, soit c'est le trail avec Seb Cornette, le fondateur d'École de Trail qui est avec moi. Salut Seb.
Salut Benoît.
Seb, ravi de te retrouver. J'espère que tout va bien pour toi. Je vois que ça roule, donc voilà, on reprend le sport tranquille et tu te remets en canne un petit peu.
Exactement, on reprend les sensations et le bonheur de faire enfin du sport.
Magnifique, merci à tous pour le soutien à RMC Running sur Instagram, sur Strava, sur les plateformes de téléchargement, Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas à laisser des notes et des commentaires. Vous adorez le concept des cabinets, je le rappelle, vous décrivez votre profil dans un mail à l'adresse suivante podcast@rmcrunning.com. On vous reçoit, vous avez 40 minutes d'échange, soit avec Johan, soit avec Seb. Un coach rien que pour vous qui répond à toutes vos problématiques. Et on y va tout de suite parce qu'Antoine patiente en salle d'attente. Salut Antoine.
Salut Benoît.
Sois le bienvenu, comment ça va?
Ça va super, merci. Salut Seb.
Salut Antoine.
Tu viens d'où Antoine?
Je viens de Bayonne.
Ah Bayonne, magnifique. Magnifique. Trailer ou coureur sur route ou hybride? Tu fais les deux?
Bon, on va dire un peu hybride là récemment, ouais. Mais plutôt trailer à la base.
Ouais. Ok, excellent. Et question simple, pourquoi tu cours Antoine déjà?
Je me suis mis à courir à la base, c'était pour voir plus de paysages, parce qu'à l'époque j'habitais à l'île de la Réunion.
Ok.
Quand je m'y suis mis. Et en fait, je faisais de la rando quand je suis arrivé là-bas. Et puis l'envie d'en voir plus à chaque sortie, quoi. Donc je me suis mis à courir, faire du trail, et puis voilà, quoi, comment, de fil en aiguille, comment ça a pris.
Ok.
Et puis, ça fait quelques années que ça dure maintenant.
Quelle est ta problématique principale? Pourquoi tu nous appelles? Quel est le sujet principal?
Bah là, j'appelais aujourd'hui parce que, en fait, du coup, donc moi, je fais de l'ultra trail.
Ouais.
Et cette année, j'avais pour projet de refaire la Diagonale des Fous, au mois d'octobre. Sauf que j'ai pas réussi à avoir de dossard. Et du coup, j'avais pas trop d'autres ultras qui me branchaient cette année là, pour à faire. Et du coup, j'ai eu l'idée de m'inscrire sur une backyard, un format backyard.
Ah, sympa.
Un format qui m'intriguait depuis un petit moment, que je voulais tester. Et puis là, du coup, comme j'avais plus l'objectif Diag, je me suis dit que c'était l'année ou jamais pour le faire. Donc, je me suis lancé sur ce format, mais j'ai aucune idée de comment m'entraîner pour ce type de course. Et je voulais avoir les conseils de Seb, notamment sur la partie renfo, tout ça, parce que je pense que c'est un point clé de ce type de format de course.
Eh ben t'es bien tombé, voilà, on va pouvoir parler de la backyard, ce format si particulier, on en parle juste après ton CV de coureur.
RMC Running, le CV de coureur.
Antoine, t'as quel âge?
38 ans.
Ok, tu cours depuis quand?
Ça fait environ 8 ans.
Ok, tu cours combien de fois par semaine?
Je cours environ 6 à 8 fois par semaine.
Ça représente combien d'heures d'entraînement ou combien de kilomètres?
Sur l'année lycée, je pense en kilomètres, ça doit être aux alentours de 70-80 par là.
Ok, gros volume, ok.
Ouais, j'aime bien.
Tu fais quoi dans la vie, Antoine?
Je travaille dans l'immobilier et j'ai un travail de bureau classique.
Ok.
Service juridique.
Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier?
Ouais, un récent, là, j'ai fait un... Alors, pour le coup, c'était pas du trail, j'ai fait un marathon sur route, là, cet hiver, au début du printemps. J'ai fait 2h54.
Bravo. Donc, ah oui, gros niveau. C'était où?
C'était à Milan.
Marathon de Milan, magnifique.
Ouais.
Johan Durand y est déjà allé. Il paraît que c'est très sympa, d'ailleurs. Très beau marathon.
Ouais, le parcours est très joli, ouais.
Bon, magnifique. Quelle est la dernière course disputée?
C'était le marathon de Milan, du coup.
Ce marathon, ok. Quelle sera la prochaine?
La prochaine, c'est le format 110 km du Val d'Aran, début juillet.
Ça fait peur au coach Seb Cornette. On va pouvoir en parler. Ok.
Ah, génial.
Magnifique. Comment tu es coaché aujourd'hui, Antoine?
Alors, je suis en club, du coup. Donc, je suis dans un club qui est à la fois triathlon et trail. On a deux sections.
Bravo.
Et du coup, on a un coach course à pied qui nous fait des plans un peu mixtes pour les deux sections. Et après, moi, à partir de cette base-là, je pioche un peu, j'adapte un peu pour mes objectifs de course. Parce qu'après, j'aime bien tous les sujets d'entraînement, mais lire des bouquins, lire du contenu dessus. Donc j'ai fait un peu de regarder à droite à gauche ce qui je fais, d'adapter un peu quoi.
Ok, Antoine avec nous, donc trailer, coureur hybride qui sort d'un gros marathon à Milan en 2h54, qui va se lancer sur ce format assez dingue, qui est la backyard. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que la backyard? C'est des courses de 24 heures, c'est ça? C'est un peu... Vas-y, je t'en prie.
24 heures ou plus, ouais, parce qu'en fait, c'est donc une boucle de 6,7 km à faire en une heure.
Ouais.
Et un départ qui est donné chaque heure jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'un seul coureur à boucler une boucle complète.
Ouais, c'est ça, c'est jusqu'au dernier survivant, quoi. C'est ça qui est...
Voilà, c'est ça.
Incroyable. Est-ce que Seb, tu as déjà préparé des athlètes qui faisaient ce type de format?
Alors oui, mais c'était plutôt, on utilisait ce format pour de la préparation. Mais j'ai jamais eu d'athlète assez qui ait des gros problèmes psychologiques pour s'engager sur ce type d'épreuve. Je te charrie Antoine.
Non,
on utilise plutôt ça d'habitude, enfin en tout cas pour mes athlètes, comme une préparation, souvent pour les coureurs d'ultra d'ailleurs.
C'est où la backyard que tu vas disputer, elle est où Antoine?
C'est à Loudenvielle, dans les Hautes-Pyrénées.
Dans les Hautes-Pyrénées, la date c'est quoi?
C'est le 25 septembre.
Ok, 25 septembre, donc tu as deux gros objectifs qui arrivent là, le Val d'Aran, le 110 km. Seb, je t'ai entendu réagir, pourquoi? Parce que c'est une course très exigeante?
Ah, parce que c'est rigolo que Antoine voulait faire la Diag et qu'il sera battant, entre guillemets, en tout cas en mi-saison, il avait le Val d'Aran, parce que c'est une course qui est très 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 exigeante, qui est d'ailleurs un bon moyen de couper sa saison en deux quand on prépare une course aussi technique que la Diag.
Ouais.
Et c'est pour ça que j'ai réagi, parce que c'est déjà un gros morceau. Enfin, Val d'Aran, c'est déjà un gros morceau. Et si je dis pas de bêtises, ça va arriver, ça veut dire que tu vas avoir 3 mois en fait entre les deux.
Ouais, à peu près, ouais.
Ouais, c'est ça. Hein. Donc ça fait deux beaux objectifs. Et c'est quoi l'objectif que tu as sur la backyard? Enfin, tu vas me dire d'en faire le plus possible, mais tu as déjà quelque chose en tête, toi, hein, ou...
Bah là, je me dis comme ça, j'aimerais bien peut-être viser 24 heures pour une première. Quoi.
Okay.
Essayer de faire, okay. Ça ferait les 160 km, le 100 miles. Quoi. Ça serait déjà bien.
Ah bah oui, ça serait énorme, magnifique.
Ouais.
Que t'as dit ton coach de club? Comment on s'entraîne pour un truc pareil, alors?
Alors, j'en ai pas trop discuté encore avec...
Ah, t'oses pas lui en parler, je comprends. Ouais,
ouais c'est ça. J'assume pas encore.
Ouais.
Mais non, après, j'ai essayé de regarder un peu, de trouver du contenu un peu, si on a des retours d'expérience de personnes qui avaient fait ça. Et justement, ouais, j'ai du mal à trouver des retours d'expérience de personnes qui en font, qui ont des techniques d'entraînement particulières. Parce que c'est une allure qui, sur le papier, paraît assez facile à tenir, hein, pour le coup, 6,7 km à l'heure.
Ouais. Mais ça dépend du dénivelé, mais ouais.
Ouais, là en l'occurrence, c'est une boucle qui est assez plate. Je crois qu'il y a 20 mètres de dénivelé sur la boucle.
Ok.
Donc, mais c'est vrai que du coup, j'ai aucune idée de comment structurer un plan d'entraînement pour préparer ce type de course. Et surtout, pour le coup, des retours que j'ai pu lire ou voir sur le sujet. Il y a certes le côté mental, dont ça, je ne doute pas, qui est assez compliqué avec la lassitude de répéter le temps la boucle chaque heure, le même parcours constamment. Et par contre, ce qui ressort aussi, que je suis assez curieux de ça, c'est en fait, beaucoup d'ultra-trailers notamment disent qu'ils sortent détruits physiquement de ces courses, quoi, parce qu'ils se font surprendre un peu. Quoi.
Donc, parce que sur le papier, ça paraît facile, avec peu de dénivelé, ce que tu nous as dit, mais finalement, c'est très très exigeant. Quoi. Ouais. Seb, comment t'appréhendrais une épreuve pareille pour un de tes athlètes? Quels sont les premiers conseils que tu peux donner à Antoine déjà?
Ben, déjà, la première des choses, c'est même s'il l'a évoqué, je pense que c'est la clé de ce type d'épreuve, c'est vraiment la préparation mentale, c'est-à-dire rentrer dans quelque chose qui va être répétitif, certainement quelque chose qui, effectivement, peut paraître physiquement et physiologiquement, je mets des guillemets à ça, hein, évidemment, simple, mais qui en fait va demander une résilience mentale. Et c'est pour ça que certains ultra trailers se font surprendre, parce qu'ils se disent bon ben au final courir 24 heures on le fait habituellement quand on fait le tour du petit caillou blanc là qui s'appelle l'UTMB, ou quand on traverse la magnifique île de la Réunion, et au final paradoxalement là répéter toujours la même boucle c'est complexe. Et d'ailleurs les coureurs de 24 heures là sur route dont Eric Lavry est un ami qui est spécialiste de ça, qui est le record de France du 24 heures. Mmh. Eux, ils tournent sur une boucle de 1 km où toutes les 6 heures, ils changent de sens. Bah, on voit bien que c'est... évidemment, il y a une part de travail physiologique, mais en fait, ceux qui performent aujourd'hui, c'est pas les plus forts physiologiquement, c'est les plus forts mentalement. Donc le conseil prioritaire, ce serait de dire ce que tu fais déjà, là, ce que tu nous as dit au niveau entraînement, je pense qu'il y aura peut-être évidemment des ajustements à faire, mais il n'y a pas grand-chose à faire à mon sens. Le plus, c'est de te rapprocher de la préparation mentale et d'avoir une vraie préparation une fois que le Val d'Aran sera passé pour vraiment t'engager sur cette épreuve là. Enfin vraiment honnêtement hein, peut-être que c'est pas dans mon champ de compétences, mais moi je suis passionné de préparation mentale et je suis pas préparateur mental, mais si demain un de mes athlètes vient me voir, je lui donnerai les adresses de très bons préparateurs mentaux parce que je pense que c'est la clé.
Et quelles sont tes principales préoccupations, Antoine ? C'est la gestion de la fatigue, c'est la gestion émotionnelle et mentale, c'est le physique tout court, c'est le ravitaillement, tout ça. Toi, tu es déjà ultra-trailer, donc il y a des problématiques ouais. auxquelles tu as déjà répondu, de toute façon.
Ouais, mais là, c'est plutôt ouais, vraiment le. Bah ouais, savoir comment je vais réagir ouais, à l'aspect mental, quoi, du fait de répéter dans cette boucle en permanence. Alors, ça, je ne sais pas du tout, c'est l'inconnu total. Et après, c'est le côté physique quoi, qui me questionne, parce que c'est vrai que bah, sur le papier, ouais, je me dis que c'est... voilà, j'ai déjà fait des ultras avec beaucoup de dénivelé, donc je me dis bon, courir à plat à une vitesse assez modérée, ça devrait aller. Mais c'est vrai que quand je vois les retours de personnes qui disent que ouais, physiquement, c'était vraiment très dur aussi, au-delà de l'aspect mental, c'est ce côté-là qui me fait un peu peur. Quoi. Du coup, je voulais voir un peu comment...
Non, en fait, t'as la clé, là, quand tu... Dans ce que tu dis là, excuse-moi Antoine, je t'ai coupé, mais ouais. dans ce que tu dis, tu as la clé. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le papier, Seaborn avec 20 mètres de dénivelé, quand tu as déjà fait des courses comme la Diag ou tu t'engages à faire le Val d'Aran qui sera un vrai chantier pour toi, là, ça peut paraître facile. C'est pour ça que j'insiste hein, sur le premier conseil, c'est effectivement ouais. déjà te préparer au fait que physiquement et physiologiquement, ça peut te paraître super simple. Mais que malgré tout, tu vas certainement avoir des douleurs que tu n'aurais pas eues sur une autre épreuve. Pourquoi ? Parce que déjà la première idée et le conseil au niveau stratégique, c'est de se dire en vrai, les premières boucles, elles sont tellement faciles qu'on est tenté de partir un petit peu trop vite. Puis se dit, bon, bah, du coup, je vais avoir un quart d'heure de récup, 20 minutes de récup. Et au final, ceux qui vont le plus loin, on s'est aperçu de ça. C'est qu'en fait, le piège, c'est justement d'aller trop vite. Et il faut réussir à trouver ce qui te coûte le moins physiquement, mais oui. qui te fait aussi t'arrêter le moins longtemps.
Le juste milieu entre l'allure exactement. En aisance et pas trop de marge non plus. Enfin, c'est tout un calcul. C'est vrai que c'est dur. Hein, ça.
Ouais, j'imagine. Ouais. Et vraiment, alors après, évidemment, il faut éviter d'être sur le fil et d'être arrivé à 3 minutes avant que ça redémarre, hein, à part si on l'a bien géré. Mais pourquoi pas d'ailleurs, tu vois, faire deux tours à peu près à 6 km/h et puis un tour où tu réaccélères un tout petit peu pour pouvoir justement te réalimenter. C'est aussi aujourd'hui pourquoi on a très peu de retours, parce que c'est quand même une jeune épreuve et en toute sincérité, c'est encore tellement une jeune épreuve que pour l'instant elle n'est pas encore considérée. Quand je dis considérée, ça veut dire que les meilleurs coureurs ils s'y intéressent pas vraiment, sauf en préparation. Donc et j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui j'ai vu je crois que le record c'est 72 heures. On va avoir posé ta semaine,
ouais.
tu vois. Bref, mais et félicitations à ce coureur. Il y a même une femme là qui est très très forte, hein, Claire, qui j'ai mangé à chaque fois son nom, donc je vais pas le dire, mais qui gagne aussi même auprès des garçons. Et on voit bien que c'est la capacité à rester longtemps dans le dur. Donc ne pas partir trop vite, mais en même temps peut-être trouver justement un juste milieu entre je peux prendre mon temps pour juste boire, m'alimenter, et en plus encore plus quand tu es ultra trailer et tu disais bon bah j'ai déjà fait des trails avec beaucoup de dénivelé. Ouais, en fait moi souvent j'ai tendance à dire que le trail qui a beaucoup de dénivelé, il est presque plus facile que le trail où il n'y en a pas beaucoup, parce que en fait ça veut dire que ça t'oblige à courir et les contraintes t'as mécaniques raison. Qui sont répétitives risquent, enfin tu vois, une vraie fatigue musculaire. Par exemple, si on prend la Diag versus la Western, la Western ça se court, ça gagne 14 heures, enfin, tu vois, ça va très 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 vite. Bah, les dégâts musculaires chez les coureurs sont quasiment aussi importants que sur la Diag. Et pourtant tu pourrais te dire, pourtant il y a beaucoup plus de dénivelé. Oui, mais en fait courir ça use beaucoup plus que marcher. parce qu'à la Diag, on marche beaucoup, par exemple. Mmh. Donc, c'est un peu, c'est vraiment contre-intuitif. Cependant, ça, c'est courir longtemps, c'est bien plus dur que marcher et puis alterner marche-course.
C'est Claire Banworth, hein, la Française, qui brille sur ce type de distance et ce type d'épreuve. Antoine, et je pose la question à Seb en même temps, c'est est-ce qu'il n'y a pas une idée aussi dans la prépa, vu que c'est l'objectif principal, de sorte de sortie choc ou week-end choc, où il peut trouver une boucle qui correspond un peu au kilométrage qu'il va devoir effectuer et la répéter sans cesse comme ça, sur faire une répétition générale. Est-ce que ça, c'est un bon conseil, Seb, ou pas?
Il n'aurait pas eu la. C'est une excellente question, Benoît, merci. Il n'aurait pas eu le Val d'Arran, peut-être que ça aurait été quelque chose que je lui aurais conseillé. Est-ce que je lui conseillerais un week-end choc? Ça, c'est sûr. Enfin, des week-end chocs, ça, c'est sûr. Mais est-ce que. Moi, j'aurais peur de l'usure mentale. Et à nouveau, hein, je vais être très humble par rapport à ça.
La fracture du cerveau, quoi. C'est ça.
Ah, exact. Si tu sors de ton week-end et que tu es cramé, pas physiquement, mais mentalement, tu vois les dégâts que ça peut causer. Et tu sais, c'est un peu comme. L'erreur que font certains, je vais courir de mon trail court de nuit, donc je vais aller courir la nuit, je vais me priver de sommeil. C'est certainement pas ce qu'il faut faire, tu vois. Ouais. Et pourtant, on l'entend encore ici ou là, hein, les gens qui se lèvent à je sais pas combien et qui vont pas dormir et qui espèrent s'habituer. Non, ce qu'on est en train de créer, c'est une dette de sommeil. Et malheureusement, ceux qui nous écoutent doivent entendre qu'une dette en sommeil, elle est jamais récupérable. On ne récupère jamais d'une dette de sommeil. C'est souvent on dit, on va récupérer. Non, tu vas faire peut-être du stock de sommeil avant un ultra. Mais en fait, si t'as accumulé de la dette, ça, c'est des points de vie. Faut vraiment insister là-dessus. Donc bref, c'est tout ça pour dire que je pense que ça aurait le même effet. Tu vois, si tu te dis, je vais me faire un... C'est comme, tu vois, tu sais, Benoît, que je me sers souvent de cet exemple, mais je vais le resituer là. C'est comme si pour préparer un marathon, t'allais courir un marathon.
Oui, bien sûr.
Et là, encore plus, parce que c'est pas que physiquement que ça m'inquiéterait. Et certainement que certains l'ont fait et ça a marché. Mais moi, en tout cas, instinctivement, je ne ferais pas ça. Non, je ferais pas ça. Est-ce que je ferais deux week-end chocs après le Val d'Arran? C'est certain. Un à 3 semaines, un à 7-8 semaines. 7 semaines, parce qu'il a quand même le Val d'Arran, donc il faudra qu'il récupère de ce Val d'Arran. Bien ça, sûr. C'est important. C'est vraiment fondamental parce qu'il va laisser quelques dégâts musculaires. Et justement. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir bénéficier quand même de ta prépa du Val d'Arran. Donc du coup, c'est pour ça que je dis, n'hésite pas à faire une coupure quand même après le Val d'Arran pour bien régénérer. Et parce que vraiment, au-delà du physique, j'insiste, c'est la fraîcheur mentale que tu vas avoir besoin.
Ouais.
Antoine, quelles sont les principales préoccupations? Moi, je suis en train de réfléchir à ta place. Je me demande quelle peut être une semaine type. Tu parlais de la prépondérance du renfo aussi, on va parler avec Seb, mais toi, quelles sont les interrogations que tu as à ce stade de la discussion?
C'est vrai que du coup, là, ce que je comprends, c'est que ce serait en fait, finalement pas trop me prendre la tête sur la trame d'entraînement et finalement suivre mes entraînements un peu classiques que je fais. Quoi. Et surtout, par contre, veiller à arriver frais mentalement sur
course. Quoi. Et reposer, bien sûr.
Et là, je comptais, du coup, après Val d'Arran, c'était coupé, peut-être pas jusqu'à fin juillet à peu près, quoi, mais 3 semaines, quoi, 2-3 semaines après la course, et reprendre.
Ouais, tu vois, alors là, c'est pour le coup pas plus de 2 semaines, parce qu'on est en courte saison, ça serait ta fin de saison, ouais, tu peux aller à 3 semaines sur l'ultra, c'est ok, mais 15 jours, ça suffit amplement. Et puis du coup faire une vraie phase de reprise. Et évidemment dans cette phase là tu vas t'interroger en disant mince, j'ai coupé, du coup je me sens beaucoup moins bien, normal. Arriver frais et parce que tu l'as pigé, hein, c'était vraiment ta fraîche, vraiment j'insiste, hein, la fraîcheur mentale qui est la clé à mon sens sur ce type d'épreuve, surtout si tu t'es fixé quand même un objectif qui pourrait sembler pour un ultra trailer, je mets des guillemets à nouveau, simple, parce que peut-être que tu as fait des ultras où tu es resté beaucoup plus longtemps en montagne. Enfin, tu vois, quel ultra tu as déjà fait, Antoine?
J'avais fait la Diagonale des Fous, c'était mon premier ultra.
Oui, donc t'es sûr que t'es déjà passé.
T'es déjà parti à l'aventure.
Heures, parce que je crois pas que je t'ai vu sur le podium.
Non, j'étais loin du podium. Là. Non, j'avais passé 47 heures sur les sentiers.
Ouais, ok. Donc, wow.
donc, du coup, tu vois, ça, le nombre d'heures, c'est pas ce qui m'inquiète, mais c'est la fraîcheur. Et d'ailleurs, peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent et qui préparent la Diag, le conseil numéro 1, c'est faites peu de courses dans la saison de la Diag, parce que ceux qui performent que ce soit les vainqueurs ou ceux qui sont les finishers, en tout cas qui se prennent du plaisir et qui font les meilleures performances, c'est ceux qui arrivent avec beaucoup de fraîcheur, et physique et mentale. Donc toi, t'es un peu dans le même truc là, hein, tu vois, alors c'est un mois avant la Diag, mais c'est vraiment... Et donc c'est très bien que déjà, toi, t'es prévu, après le Val d'Arran, d'avoir une vraie coupure. Et 15 jours, je pense que ça suffit.
Moi, ce qui me fascine, Antoine, avec les coureurs comme toi, les élites, c'est quelque chose, mais quelque part, c'est leur métier, ils sont conditionnés pour ça. Mais c'est qu'est-ce que tu vas chercher dans l'ultra et dans les épreuves aussi difficiles, mentalement, physiquement ?
Je pense que c'est le dépassement de soi, quoi, de voir. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est santé, le fonctionnement du corps humain, tout ça.
Ouais.
Et du coup, je trouve ça fascinant à chaque fois, dans chaque ultra, de voir jusqu'où ton corps il peut aller, qui est plein de ressources, quoi, qui est presque inépuisable, on va dire. Mmh. Et je trouve ça assez fascinant de constater ça à chaque fois, quoi, et de pouvoir repousser les limites sur chaque course. Quoi.
Est-ce que tu as suggéré mentalement et psychologiquement tous tes ultras, enfin, en tout cas déjà la Diag, comment ça s'était passé de ce point de vue-là?
La Diag, c'était particulier parce que c'était vraiment la course de rêve, quoi, pour moi, que je voulais faire une fois dans ma vie. Et du coup, en fait, quand je l'ai fait, j'avais la banane pendant toute la course, quoi. Donc, j'ai pas eu l'impression de l'avoir subi plus que ça.
Ok.
Et je voulais juste, à l'époque, je voulais juste vraiment terminer, quoi. C'était mon objectif, c'était d'être finisher. Et donc, du coup, j'avais aucune pression de chrono, quoi que ce soit. Enfin, j'avais même pas déclenché la montre à l'époque, quoi. Je courais avec.
C'est bon, ça.
Et du coup, je voulais juste terminer, quoi. Donc, j'avais pas trop subi, quoi. C'était vraiment du plaisir tout le long, quoi.
Ok.
Donc, après, c'était quand même dur physiquement. Et l'après-course était un peu compliqué après deux nuits blanches d'affilée. Mais... mais sinon, non, après, sur les autres ultras, ça, j'ai jamais eu trop de. Mentalement, ça va, en fait. À chaque fois, je les encaisse plutôt bien, je pense.
C'est un bon indicateur quand même dont Antoine aborde ses courses.
Ouais, c'est bravo parce que ça fait plaisir d'entendre un coureur qui nous parle avant tout de sa santé, de la façon dont il voit la course aussi, ça c'est très intéressant. Et il faut qu'on véhicule encore un peu plus ce type de discours. Mmh. Et effectivement, si en plus toi, il semble que ce soit ton truc et que tu récupères bien, d'abord commencer par je récupère bien mentalement, c'est que t'es aligné, quoi, en fait, tu vois, tu fais pas ça pour un Strava ou le regard des autres, faire sans montre, mais il y en a combien qui vont te dire si c'est pas sur Strava, ça existe pas, donc du coup félicitations, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Et donc du coup, effectivement, même si j'ai fait une petite blague en disant j'ai aucun de mes athlètes qui est assez fou pour faire ça, il semble que toi tu le fasses en toute conscience et de manière alignée, donc c'est bien, c'est bien d'avoir cette philosophie.
Comment peut-on aider Antoine à définir son allure de course? Ça c'est dur. Comment on va faire, Seb, pour l'aider là-dessus?
Moi je lui parlerai jamais d'allure, je lui parlerai d'intensité.
Ouais.
Je lui dirais, il faut vraiment que tu sois pendant tes premiers tours à une intensité que tu évalues entre 4, 5 sur 10, pas plus. Et en fait, ton allure, elle va décliner, je te rassure. La dérive, elle va arriver. Mais justement, c'est pour ça que l'allure, on s'en fout à peu près, et encore plus dans l'ultra. Alors évidemment, ceux qui visent la performance vont s'insurger par rapport à ce que je dis, mais vu que c'est ceux qui cherchent la performance, c'est 0,0001%, quand je parle des élites qui vont faire attention parce qu'ils veulent battre des records. Mais là, sur ce type d'épreuve-là, et je le répète, c'est pas le plus fort dans l'allure qui va gagner.
Bien sûr.
C'est celui qui peut-être, des fois, il va prendre que 2 minutes, il va repartir, réussir à gérer son alimentation. Ça, c'est un point qui est fondamental. Et puis la fatigue, l'hyperfatigue. Donc, ça veut dire que même si là, ton objectif, Antoine, est 24 heures, mais tu as déjà passé 47 heures sur la magnifique île intense, peut-être que tu vas te laisser. Moi, je te souhaite d'ailleurs, parce que ton objectif c'est 24 heures, mais peut-être que caché derrière ça, t'aurais envie de faire peut-être un peu plus long. Si tu y arrives, après, il va falloir gérer cette dette de sommeil. Et là, peut-être qu'il va falloir courir un peu plus vite pour pouvoir te caler des micro-siestes. Il va falloir que tu fasses attention au mirage, parce que tu vas avoir des hallucinations,
des licornes.
J'en prends pour exemple, ouais, exactement, des licornes partout. Ça, on n'en parle pas assez, mais sur l'ultra endurance, c'est-à-dire vraiment les sur le Tour des Géants, par exemple, je vais citer un de mes amis et ancien athlète, Patrick Boar, qui a été le premier Français à gagner le Tour des Géants. Tu sais, si vous discutez avec lui, il va vous raconter qu'il a vu des trucs qui n'existaient pas en pleine montagne, parce qu'il était pris par des hallucinations dues au manque de sommeil. Le cerveau vient vous jouer des tours. Donc, tout ça pour dire que sur 24 heures, c'est peu probable. Surtout sur un ultra trailer qui a déjà fait autant de temps. Mais si tu t'engages sur quelque chose en plus qui est répétitif, la probabilité que ça arrive par le manque de sommeil et la dette de sommeil, ben là il va falloir avoir une autre stratégie. Donc en fait on pourrait dire que jusqu'à 24 heures, la nuit blanche, c'est OK. Mais tu t'en as parlé d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si dans tes 47 heures, toi, tu avais fait des petites pauses sommeil ou pas.
Non, justement, ça peut être un sujet parce qu'en ultra, tu vois, j'arrive jamais à faire de micro-sieste ou quoi que ce soit.
Ah
En
ouais.
général, c'est vraiment. Ouais, j'ai le corps qui est tellement éveillé. Enfin, je ne sais pas si c'est l'adrénaline de la course, mais j'arrive jamais à dormir.
Et t'essayes ou non, tu n'essayes même plus à force?
Ouais, si, j'ai essayé, mais à chaque fois, enfin, là, le dernier ultra que j'avais fait, c'était le Grand Raid des Pyrénées l'été dernier.
Ouais.
Ah ouais, tu fais
Et,
que des trucs roulants, j'adore.
Ouais.
Tu fais des trucs faciles.
Et c'est vrai que tu vois, je vais essayer de m'allonger 10 minutes à un moment sur un ravito à la fin de la nuit blanche, quoi. Enfin, et impossible de fermer l'œil, quoi. Je m'allonge, mais j'ai le corps qui est réveillé. Et au bout de 10 minutes, je me dis, bon, bah, ça sert à rien, et puis je repars, quoi.
Trop d'adrénaline, quoi. Ouais.
Ouais. Alors ça peut faire partie si demain toi tu veux comment dire te challenger. Tu parlais de regarder l'ultra, c'est intéressant. Est-ce qu'on est tous capables de le faire? La réponse est oui, pourvu qu'on s'y prépare progressivement. Sauf si on fait partie du projet 0 tout 100 et là c'est OK, on peut le faire en très peu de temps. Mais en vrai, pour redevenir très sérieux, il semble que si tu veux performer ou en tout cas te challenger encore un peu plus. Progresser sur ça, c'est-à-dire réussir à faire des micro-siestes et des fois juste des endormissements. J'en prends pour exemple, justement, je reprends l'exemple de Patrick Bauer qui se mettait sur ses bâtons. Il mettait la tête sur ses bâtons et à partir du moment où il lâchait, il allait tomber, ben, ça suffisait. Et ça, c'est tiré d'exemples de navigateurs qui expliquent qu'en fait, ils s'endorment dans le creux d'une vague et ils se réveillent sur la remontée de la vague.
Ah, mais c'est fou.
En fait. Et ça permet hein, vraiment de faire des vrais resets. Et où s'allonger avec des clés dans la main, là. Et dès que tu lâches les clés, bon, bah, ça a suffi. Donc, tu vois, c'est aussi très intéressant de s'intéresser justement à ça pour pouvoir justement gérer ça. Une fois que tu as réussi à améliorer ça chez toi, ben, tu t'apercevrais que tu serais un tout petit peu plus performant.
Mais c'est exactement ça, et je me permets, parce qu'on vient d'enregistrer un épisode qui sera diffusé en cette fin de semaine dans RMC Running. Mathieu Nedelec, qui est docteur en sciences à l'INSEP et qui est chercheur sur tout ce qui est récupération et sommeil. Épisode très intéressant qui va te concerner. Antoine, en plus, tu es un auditeur fidèle, donc tu pourras l'écouter avec plaisir. Mais justement, il parle de tout ça, de la façon dont même une sieste de quelques minutes va renforcer ta vigilance pour les 2-3 prochaines heures. Et ça, c'est passionnant. Et lui aussi, Seb, c'est pour ça que j'en parle, c'est que lui aussi prenait l'exemple des navigateurs sur le Vendée Globe, qui, eux, finalement, n'ont jamais de nuit complète et qui fractionnent leur nuit et qui peuvent dormir 10 à 12 fois par jour sur des périodes de 10 minutes à un quart d'heure. Donc ça, c'est assez passionnant à écouter. Et ça demande de l'entraînement, mais pour le type d'épreuve que tu vas préparer, Antoine, ça peut être fondamental. Hein, parce que là, si tu apprends à reposer ton corps sur une dizaine de minutes et à repartir juste après, là, ça peut tout changer au niveau de ta perf, hein, ça c'est sûr.
Ouais, c'est vrai que c'est un sujet à creuser, ça, je pense.
Et quel conseil tu donnerais, toi, Seb, à Antoine, concernant le renfort musculaire sur une épreuve pareille?
Bah, en fait... Comme je ne veux pas paraître caricatural, qu'est-ce qu'il a fait jusque-là en renforcement? Est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il fait à poids de corps? Est-ce qu'il fait avec charge? Et puis, en fonction de ce qu'il a déjà fait, bon, bah, on réajuste, on fait peut-être un rappel. Idéalement, si Antoine avait la chance que je le coache. Non, j'ai inversé. Si j'avais la chance de coacher Antoine, on aurait déjà fait un cycle de force pour préparer le Val d'Aran. Et après ce Val d'Aran, j'aurais fait un petit rappel quand même parce qu'il est important de le faire. Si... Jusque-là, Antoine, c'est quoi la place du renforcement ou de la musculation dans ton entraînement?
Je fais pas de musculation, par contre, je fais du renfo une ou deux fois par semaine. On a un coach là, dans mon club qui nous fait des séances encadrées. Après, c'est essentiellement au poids de corps, on a quelques haltères. Donc on se lève pas très lourd, quoi, mais c'est régulier quoi, toutes les semaines.
C'est quoi? C'est sous forme de cross-training full body ou membrane seulement?
Membrane plutôt,
ouais.
Donc c'est renfo des jambes, sur du squat, de la chaise, ce genre d'exercice.
Ouais, peu de chaise, de la pliométrie.
Squats, tu sens un effet tu trouves que c'est bénéfique ou pas?
Ouais, là ça va faire un an et demi que j'en fais. Ouais. Et je sens que quand même je me sens plus solide sur les cuisses, quoi. Et je sens surtout au niveau de la prévention des blessures. Quoi. J'ai moins de douleurs qu'avant au niveau de notamment tout ce qui est tendons, tendons d'Achille.
Je suis vraiment étonné que le renforcement, ça serve à quelque chose. Je suis vraiment étonné.
Toi, l'apôtre du renforcement musculaire. Non, mais déjà, les habitudes sont ancrées. Bah oui, c'est ça.
Ouais. Là, vraiment, en toute sincérité, je modifierai rien parce qu'il est trop tard pour soulever de la charge. Le Val d'Aran arrive bientôt, donc il faudra qu'il récupère. On ne va pas commencer à changer les habitudes. Par contre, oui, et mon conseil que je fais à peu près à 99% des coureurs qui vont nous appeler, c'est à l'hiver, là, après ta coupure, prends un abonnement pour passer en fait un gap. Et on parlait de prévention des blessures. Les préventions des blessures, c'est encore plus marqué quand on soulève de la charge additionnelle. Donc, c'est déjà super. Hein. Attention, moi, je suis toujours très content quand j'entends que mon discours, il passe à peu près partout. Qui peut le plus, peut le moins. Je dis, maintenant que tu as fait ça, peut-être dis à ton coach d'investir dans quelques kettlebells, vous faire soulever des charges, même sans avoir très, très lourd. En fait, on sait aujourd'hui qu'avec un outil qui s'appelle le tempo, ça veut dire dans le temps sous tension de tes groupes musculaires, on peut... Alors, les préparateurs physiques puristes vont dire que je dis n'importe quoi, mais en tout cas, on peut développer une partie de ta force grâce au tempo, même en soulevant pas des charges ultra lourdes. Évidemment, l'idéal, c'est des charges assez le plus lourd possible, comme on dit. Mais déjà, ça pourrait être un vrai game changer pour toi demain. Mais là, aujourd'hui, tu as deux séances par semaine en forme, j'imagine, cross-training. Garde ça et n'invente rien de nouveau pour l'instant.
Tu as reconnu le parcours ? Tu sais ce qui t'attend ? Est-ce que c'est du bitume ? Est-ce que c'est du chemin ? À quoi ça ressemble ?
Ouais, c'est un petit sentier là, qui tourne autour d'un lac. Okay. Donc, c'est pas vraiment du bitume, mais c'est quand même une sorte de petit enrobé. Quoi, un peu
pas
propre,
trop technique.
Propre,
quoi.
Comme ça. Okay. Non, ouais, voilà. Ça passe en basket de route, en chaussure de route.
Ok. Et tu le fais seul ou tu vas le faire à plusieurs avec d'autres potes que tu as réussi à motiver là-dedans ?
Non, je suis le seul qui me soit motivé pour m'inscrire. Bizarrement, j'ai pas trouvé grand monde pour m'inscrire.
C'est bizarre. Ça vous dit, les gars ? Non,
c'est étonnant.
Personne lève la main ? Non. Ok. Et comment
j'ai essayé d'en motiver quelques-uns, mais ça n'a pas pris.
Ah, tu m'étonnes.
Mais par contre, j'essaie de les motiver, là, d'en trouver quelques-uns pour me faire l'assistance. Pour le coup,
c'est ce que j'allais
j'ai
dire.
J'ai cru comprendre que c'était un sujet clé aussi.
Comment ça marche, l'assistance ? Alors, quelles sont les règles à respecter ? Est-ce que c'est un peu cadré ou est-ce que non, on peut t'aider tout au long du parcours ?
Alors, on n'a pas le droit d'être accompagné sur la boucle, ça c'est la principale règle. Et par contre, en fait, comme on revient à une sorte de base vie à chaque heure, en fait, où on fait notre pause, là on a chacun notre espace et du coup, on a le droit là d'être assisté librement. Donc, on a quelqu'un qui peut nous préparer nos flasques, nos repas, on peut se faire masser. Donc là, c'est assez libre, on n'a juste pas le droit d'être accompagné sur la boucle.
C'est un bon format, hein. Franchement, je trouve même du point de vue sécuritaire,
idée.
Tout ça.
Ouais.
Nous, on a mis en avant les Crazy Loops du MDS là, qui sont en train de se monter un peu partout dans les montagnes françaises, qui est un peu le même système.
On les avait vus l'an dernier, ils avaient fait une édition à La Rosière. Ouais.
Exactement, ils y seront encore. Ouais. Et c'est vrai que d'un point de vue sécuritaire, ça enlève là aussi une charge mentale, Seb.
Clairement, et c'est pour ça que j'ai vraiment fait des jokes en commençant, mais je trouve que l'idée elle peut être vraiment intéressante. Ce qu'elle peut être aussi intéressant, tu me connais Benoît, et l'esprit école de trail, c'est venez, on fait tous du sport. Là tu pourrais y aller avec quelqu'un qui va faire que 5 boucles ou 2 boucles, puis un autre qui va se challenger un peu plus, puis il y a cet esprit une fois que j'ai fini je reste, je peux faire l'assistance. Enfin, vraiment il y a un truc qui peut se créer autour de ça qui nous est cher à nous tous là, qui est la communauté là, c'est justement de faire des trucs ensemble. Et je trouve en vrai que c'est une super idée. Et quand j'ai vu justement le MDS installé à La Rosière, et en plus j'avais un de mes potes Davidos qui a fait quelques boucles, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Je trouve que l'idée est vraiment très intéressante, et à nouveau pour qu'on puisse et accessible à tous. Voilà, on pourrait y aller pour faire que deux boucles.
Exactement. Voilà, il n'y a pas de niveau requis pour se lancer là-dessus. Moi, j'ai une pensée, je vais essayer de me mettre à ta place, Antoine. Ma seule crainte ultime, ce serait la météo. De me dire, il faut éviter la pluie au maximum. Là, tu décides de rien, malheureusement, mais la pluie, c'est puissance 10, quoi, d'un point de vue de l'intensité, de la difficulté. À mon avis, c'est le truc à éviter, quoi. Je te souhaite
en plus,
un grand soleil.
Dans les Pyrénées, au mois de septembre.
Là, c'est... Là aussi, il faudra te conditionner mentalement, hein, parce que ça, c'est pas facile à affronter, ça, c'est sûr. Antoine, est-ce que tu avais d'autres questions pour le coach Seb ?
Ouais, j'avais éventuellement une autre question, c'était par rapport à l'alimentation justement sur ce type de course. Comme on est un peu sur un effort qui est un peu, on va dire, en sous-intensité au niveau de l'allure, est-ce que je dois avoir une logique un peu de, comme on voit sur les autres courses, sur les courses plus classiques, que ce soit sur route, en ultra, d'avoir 60 grammes, 90 grammes de glucides à l'heure, où là je peux être sur une alimentation plus normale, on va dire un peu au feeling. Est-ce qu'il y a besoin d'apport en glucides autant que sur une course plus classique?
Bah, en fait, le piège, c'est justement de se dire que, tu vois, dans ta question, il y avait, à mon sens, une erreur. C'est-à-dire que la sous-intensité ne veut pas dire l'allure plus faible ne veut pas dire sous-intensité. Je m'explique. En fait, au bout d'un moment, tu rentres dans quelque chose de répétitif qui va, de surcroît, augmenter l'intensité sans que tu t'en aperçoives vraiment. Donc, ton organisme, il va quand même être hyper sollicité. Donc, je pense que là, la stratégie, c'est de se dire... Est-ce que je garde mon alimentation qui fonctionne jusque-là? La réponse, à mon sens, ça serait oui. L'idée aussi, c'est peut-être, comme tu as la chance de revenir toujours au même point, peut-être, je ne sais pas si tu apportes du salé, toi, dans tes ultras, mais moi, c'est quand même un conseil que je donne, parce qu'on a parlé de la pluie, mais il peut aussi, je ne sais pas, faire très chaud, et donc, du coup, se prémunir de ça. Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a marché pour toi jusque-là? Et n'invente rien, en tout cas, fais des essais. En amont, ouais. Sur tes week-end shocks, c'est le meilleur moment pour que tu, justement, tu puisses être le plus précis possible. Et peut-être, comme quand même le côté négatif de ce type d'épreuve, c'est la monotonie, peut-être avoir quelque chose qui pourrait te faire plaisir, qui serait certainement pas au top au niveau nutritionnel, mais le truc plaisir. Je dis n'importe quoi parce que moi je fais jamais d'écart, mais quand je fais un écart, ça s'appelle un sneaker, tu vois. Bah, tu vois, avoir mon sneakers parce que ça va juste mentalement me faire du bien.
Pas les mêmes écarts.
Ouais, pardon. ou avoir ton petit, tu vois, un truc qui te fait plaisir. Je crois que, tu sais, par exemple, la Diag, ce qui est génial, c'est que tu t'arrêtes, les bénévoles sont tellement extraordinaires. Bon, Gerbi, hein, j'adore cette course et j'adore les Réunionnais, mais tu peux te manger un petit carré poulet, une petite soupe, enfin, tu vois, un truc plaisir qui est là et qui, du coup, tu profites vraiment. Donc, voilà mon conseil, c'est attention. Oui. Au trop strict dans ton alimentation et ce petit côté plaisir. J'espère que mon ami Anthony Bertus, il écoute ça, il est d'accord avec
on
ça.
On le fera à force. Lui, il est cité toutes les semaines, donc on va le faire invité parce que c'est ça, faut qu'on le fasse venir celui-là. Mais c'est vrai que c'est tellement dur mentalement qu'il faut garder le petit réconfort, même du bonbon ou du truc qui peut te faire plaisir. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr. La petite récompense à chaque tour, ça peut t'aider. Antoine, en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans RMC Running. Félicitations pour ce beau défi que tu te lances. Tu nous tiens informés de ce qui se passe. À chaque fois, je le dis d'ailleurs aux auditeurs qui passent dans le cabinet, sachez qu'on a eu des nouvelles de notre ami JB qui s'était lancé dans son van et qui avait traversé l'Europe pour aller se faire le marathon d'Athènes tout seul. Il l'a bouclé la semaine dernière, donc on le félicite. JB Caverne, vous pouvez aller voir sur Strava. Mais vraiment, on est liés désormais, vu que tu es venu nous raconter ton histoire. Donc on veut des nouvelles après le Val d'Aran et surtout après ce magnifique défi de la Bacquiarde dans les Hautes-Pyrénées le 25 septembre. Merci Antoine d'être venu.
Merci à vous.
Bye bye, bonne journée. Salut. Grand merci à Seb Cornette. Si vous voulez postuler, vous adressez une candidature à podcast@rmcrunning.com et toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.